R22, tout monde.
Tout monde.
Antenne, radio, bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, création, politique.
Donc cet après-midi va commencer avec un temps de lecture. Un temps de lecture donc d'Aurélie Foglia, bienvenue. Qui a intitulé donc sa présentation, sa lecture « Vous désarticuler ». Et ce sera un extrait, si j'ai bien compris, donc, de « Comment dépeindre », publié chez Corti en 2020. Je vais donc vous présenter brièvement Aurélie Foglia. Aurélie Foglia est une ancienne élève de la rue d'Ulm, agrégée de lettres classiques, maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Ses recherches en littérature portent sur l'émergence du romantisme et en particulier Stahl, Chateaubriand, Lamartine, creuse la notion d'impersonnalité, notamment dans la poétique baudelairienne, et interroge le chant contemporain, avant tout sous l'angle de l'éco-poétique, de l'impersonnalité et de l'écriture femme. Elle donne régulièrement des lectures et des ateliers d'écriture. Elle fait partie, entre autres, des auteurs fondateurs du festival 4-1, dont la première édition a lieu en juillet 2021. Elle a publié « Hommage à Pau », « La dame de 11h » 2007 et « Entrée en matière » chez nous en 2010 sous le nom d'Aurélie Loiseleur. Puis, sous son propre nom, elle a publié « Jean de Peine » chez nous en 2014 et aux éditions Corti, un roman, « Dénouement » en 2019 et deux livres de poésie, « Grand monde » 2018, « Tourné vers les arbres » et « Comment dépeindre » donc en 2020 dans le dialogue entre deux gestes, « Écrire et peindre ». Elle a donné également un feuilleton de poésie, Lyrisme, à la revue Catastrophe et repris dans le numéro papier de Le Corridor Bleu 2020. Elle est aussi plasticienne et suite à la destruction en décembre 2018 de la totalité de son œuvre de peintre par un ex-concubin violent, elle a lancé la notion d'articide et avec Maud Thiria, un collectif contre l'articide. Une partie des toiles détruites est encore visible sur son site a-foglia.com. Bienvenue Aurélie Foglia.
Bonjour, alors merci aux organisatrices et à tous ceux qui écoutent d'avoir cet espace de parole, de lecture. Je me suis dit que j'allais peut-être réfléchir d'abord en quelques mots à mon rapport à l'écriture dite féminine. Et c'est vrai qu'au début, j'étais plutôt une poète femme qui écrit de la poésie. Et si je m'interroge, parce qu'on va puiser dans son expérience, on est tous et toutes la somme de notre vécu. Je pense que j'ai visé une sorte de sujet universel écrivant. C'est lié en partie à mon histoire, puisque j'ai largement profité des acquis suite aux luttes féministes des années 60-70, puisque je n'ai pas eu l'impression d'être victime de discrimination en étant femme dans mon cursus d'études, par exemple. Disons que les choses ne m'étaient pas plus faciles ni plus difficiles en raison du fait que j'étais femme. Et puis peut-être en raison de mon histoire familiale aussi. J'ai eu la chance de naître fille dans une famille qui était contente d'avoir une fille, et j'y repensais parce que je me disais que quand le désir des parents devient une déception, on n'a pas le produit qu'on voulait. Dans une société très patriarcale où avoir un garçon, c'est quand même tellement mieux que d'avoir une fille. Je repense à Madame Bovary, c'est une fille, Madame Bovary tourna la tête et s'évanouit. Donc voilà, je n'ai pas eu à souffrir de ce genre de situation qui doit être extrêmement difficile à porter pour un naissant. Donc j'en viens à mon parcours. C'est vrai donc que j'écrivais plutôt au nom d'un sujet universel. Et ça se voit dans Jean de Peine. Jean de Peine qui est un cri, une prise de parole au nom d'une masse anonyme et qui est donc une sorte de réflexion sur cet anonymat d'une souffrance partagée, quel que soit le sexe de ces gens de peine. Et le mot Jean lui-même vaut aussi bien pour un masculin qu'un féminin. Il y a un poème peut-être où on entend une prise de parole au féminin et qui traduira chez moi une sorte d'éveil de cette conscience d'écrire de la poésie non pas seulement en tant que femme, mais de la poésie féminine, donc plus engagée, plus orientée et qui commençait finalement à prendre conscience de cette source en moi. Je dirais que j'ai toujours écrit de tout mon corps, donc en tant que femme, mais que d'un point de vue notionnel, idéologique, du point de vue de la prise de conscience de ce que ça pouvait impliquer au niveau même de l'écriture et de son impact, ça a été le fruit d'un mûrissement. Et on va voir à quel point ce mûrissement s'est accéléré avec Comment dépeindre en raison des événements. Donc Jean de Peine, on trouve par exemple ce poème à la page 82. Dites-moi, dites-moi, bon homme, quels sont ? Comment vous hommez-vous ? Et toi, comment te préhommes-tu ? C'est Adrien Fauve, Benoît Bonnebouche, Simon Terrenoir, Olivier Bâtard, Alexis Grandhomme, Constance Clore Allette. Je suis une homme, je suis une âme. Écrit donc H-E-2-M-E. Je porte parole de la gente féminine. Enfin, comment dire que je ne suis pas hors de vous avec vos mâles mots, bafouille, bafoue mes noms de guerre. Laura Lagru crie, Anaïs Piton crie, Maltette Laure crie, Nicole Pigeon crie, Hélène Fablet crie, de sexe faible, et puis elle, et puis elle. Donc, on entend peut-être se singulariser déjà une revendication féminine, une parole de sexe féminin. Et puis, dans Grand Monde, donc, c'est un livre tourné vers les arbres. Donc, là encore, la différenciation de genre n'est pas nette, n'est pas au centre de cette écriture, mais on entend déjà une forme d'hybridation du végétal et du féminin. Et en y repensant, et parce que justement, Comment dépeindre ensuite m'a engagée très profondément dans cette voie, je pense que ce sont les prémices d'une forme d'écoféminisme, en fait, qui s'est imposée presque malgré moi dans mon écriture. Donc, ce rapport à la nature, il est très fort. Alors, il y a une sorte de raison onomastique, puisque folia, en italien, ça veut dire feuille. Et donc, je suis un peu une femme arbre, une femme feuille, avec aussi la polysémie du mot feuille, feuille de papier, feuille d'arbre. Et donc, je veux, par exemple, lire... deux poèmes de Grand Monde. Je ne suis pas très je dans mon bain d'arbres. Est-ce qu'une mûre est une? Si de l'ombre de frêne était une femme, je la serais. Je sentirais l'être. Je promets. Et encore celui-ci, page 131 de Grand Monde, toujours. Un paysage me pousse à travers cils. Soit une feuille perçant le scrotum d'un rocher. Mes arbres sont en rue. À travers ma vitre, j'ai des conceptions. Ému comme un arbre à la vue d'une rose dans la rosée, après mes pétales, j'ai porté des pommes comme tout le monde. Ainsi vont les arbres, avec un brin de tristesse. Donc voilà, c'était une façon un peu de reprendre aussi dans ce livre le mythe de Daphné, la métamorphose en arbre, et en même temps donc vivre de façon très viscérale ce cycle des saisons, cette identification à l'arbre, dans une sorte de recherche à tâtons de ce que pouvait être un corps naturel, un corps féminin, donc avec son cycle, son rythme biologique. Et j'en viens à Comment dépeindre, parce que en fait, il y a un lien très fort entre Grand Monde et Comment dépeindre. Il se trouve que Grand Monde donc, m'avait conduite vers les arbres et je n'ai pas pu les quitter. J'ai commencé ma vie dans les arbres, en quelque sorte. Et c'est ce qui fait que je me suis mise à peindre. Alors, c'était assez imprévu, pardon. C'est une sorte d'épanouissement. J'avais un rapport à la peinture qui datait de longtemps, notamment de la mort de mon grand-père, où je m'étais mise à peindre des mimosas, parce que le jour de son enterrement, tous les mimosas étaient en fleurs et le ciel d'un bleu étincelant, ça m'avait beaucoup marqué sensoriellement. Et puis après, il y a eu la rencontre de Henri Michaud, une rencontre personnelle, impersonnelle, puisque bien sûr, il était mort, mais en tout cas, la rencontre de ses lithographies. Et bêtement, naïvement, je me suis dit, je ne peux pas en acheter, je peux peut-être peindre. Voilà, donc il m'a décidé. Donc merci à Michaud aussi. Je me suis lancée dans cette expérience et puis j'étais très fascinée par le lien entre écriture et peinture. Donc j'ai décidé de l'explorer, mais le pinceau me gênait. Et très vite, je me suis débarrassée de cette prothèse inutile pour me mettre à peindre à main nue. Et là, évidemment, c'est une façon très préhistorique de peindre, une façon très physique qui engage le corps et qui est aussi une peinture du geste. C'est-à-dire que cette peinture à la main, très manuelle, très même digitale, on pourrait dire, est une sorte de prolongement du geste d'écrire, mais dans une forme d'immédiateté au rapport au monde, qui m'a apporté beaucoup de joie. Et j'arrivais pas donc à quitter les arbres, et je n'ai peint que des arbres. Et donc je les faisais pousser sous mes doigts, une sorte de surgissement euphorique de cette nature, plutôt de ces doubles de la nature, de ces reproductions. Et je me suis rendu compte assez vite que le mimétisme ne suffisait pas. Pour qu'un arbre apparaisse sur la toile, il fallait qu'il se montre. Donc j'ai cherché des façons de le pousser à se montrer. Bref, c'était donc une exploration qui me tenait à cœur. Et comme décidément, je n'arrivais pas à quitter ces arbres ni la peinture, spontanément, l'écriture s'est mise à accompagner la peinture. Et j'ai commencé à tenir une sorte de journal d'atelier avec des poèmes courts, donc qui faisaient dialoguer ce geste de peindre et ce geste d'écrire de la poésie. Donc là, l'écriture féminine, elle était peut-être dans ce geste de création très, très physique, très charnel, ce rapport à la couleur. Mais vous allez me dire, ce n'est peut-être pas encore suffisant pour qu'on puisse parler de poésie vraiment féminine, puisque... c'est un geste qui appartient aussi à beaucoup de peintres masculins. Et il se trouve que la vie m'a rattrapée en quelque sorte, puisque j'avais à peu près écrit les trois premières parties quand il s'est produit un drame, une catastrophe, donc qui a été un point de non-retour, puisque j'étais en proie à un ex-compagnon qui était alcoolique et donc qui était de plus en plus jaloux de ses gestes de création, en particulier de mes publications littéraires, vu qu'il avait été refusé partout. Donc, il n'a pas pu supporter, en fait, cette ombre que mes arbres lui faisaient. Et donc, je me suis enfuie suite à quelques péripéties. Et je n'avais rien fait, comme je dis dans les livres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison rationnelle, de motif où il aurait pu m'en vouloir, de provocation, de jalousie amoureuse ou rien, il n'y avait rien que du dévouement et donc de la violence aveugle de l'autre côté. Et j'y tiens parce que on voit bien dans le livre Rouge pute de Perrine Le Guérec, par exemple, que on culpabilise souvent les femmes victimes de violence en disant bon, il n'y a pas de fumée sans feu, elle l'avait peut-être bien cherché. Et mon expérience me permet de dire que non. Il y a beaucoup de femmes qui ne l'ont pas bien cherché, c'est juste qu'il y a un déchaînement de violence contre elles, contre ce qu'elles sont, ce qu'elles incarnent. Et c'est ça qui est grave, en fait. Et c'est d'autant plus grave qu'au niveau de la réception, entre guillemets, de cet acte de violence, il n'y a pas eu d'écho du côté de la police ni de la justice. J'ai été livrée à moi-même, et donc j'ai dû fuir ma maison. Et les toiles, donc, je les ai retrouvées détruites dans le jardin. Plutôt, la police m'a demandé d'aller les photographier et comme ils les avaient défenestrés et lacérés, c'était facile pour moi, dans mon anéantissement, dans le traumatisme, de les photographier, ou plutôt c'est ma fille aînée qui les a photographiés parce que j'en étais pas capable. Le texte, la dernière partie de Comment dépeindre a suivi, enfin, elle est née à ce moment-là comme un long lamento sur la destruction d'étoiles. Et il m'a semblé que ce livre-là, cette dernière partie, était une sorte d'apologue finalement, puisque la main de l'homme était revenue. Mais par rapport à la main féminine qui caressait les arbres, qui les faisait pousser, on avait tout d'un coup une main masculine prédatrice qui détruisait totalement l'œuvre. Et donc ce geste-là, on m'a dit, mais c'est typique de l'écoféminisme en fait, c'est vraiment, c'est la main prédatrice qui veut détruire et qui détruit non seulement la représentation des arbres, mais à travers elle la nature, c'est-à-dire donc ce sort de ventre féminin, de climat heureux de création. Et donc un peu de temps s'est écoulé puisque c'était décembre 2018 et donc j'ai lancé la notion d'articide. En fait, l'articide, je l'ai forgé sur le féminicide et l'écocide, On entend une très grande proximité entre ces mots, d'où ce collectif. C'est un collectif parce que j'ai appelé les artistes à répondre à la destruction par la création, et donc à faire œuvre aussi et à témoigner. Il me semble qu'il est important d'avoir une parole de témoignage. Donc voilà, je crois que j'ai assez parlé du livre et que maintenant je peux en lire des passages. Puisque... Alors, c'était un livre totalement inédit l'année dernière. Il n'était pas encore paru. Il est paru en décembre 2020. Et maintenant, donc, il est disponible aux éditions Corti, avec sa couverture bleu indigo. Alors, la dernière partie, je l'ai intitulée « Vous désarticulés ». Désarticulés EES. Donc, il ne s'agit pas de vous désarticuler, mais de prendre acte de cette désarticulation des toiles qui étaient vraiment démembrées, éventrées. Et évidemment, le mot désarticulé fait aussi penser à la désarticulation du langage quand on n'a plus de mots pour dire l'innommable, l'indisable. Donc, je ne vais pas lire tout, mais je vais essayer de parcourir cette dernière partie. J'ai du mal. Mes grands fantômes, mes enfants du bout des doigts, où êtes-vous à ne plus exister? Que faites-vous à n'être plus visible? Qui vous a rendu au blanc? Effacé de l'espace où vous étiez arrivé au point d'apparaître, mais démembré. Qui vous a fait de nuit vous retourner à l'absence pire que le noir du sans couleur? Revenez, mes désarts. Sur la toile, peu à peu, je voyais bouger. Mon geste était du vent, appelé à subir tout cet arrachement tragique à la racine, ce climat. Ceci est un livre sans image, devenu livre de deuil, malgré lui, malgré moi. Un livre en deuil, des images. Je suis en hiver. Vu dans le jardin, l'entassement maladroit d'étoiles, l'abandon maigre des corps, les autres sur les autres, éventrés, haut, mâchoire saillant, cadre cassé, holocauste, des arbres jetés par la fenêtre. L'un était resté pendu dans l'oranger du Mexique. J'ai flairé vos cadavres, charniers sans odeur humaine. Tête vide comme l'animal à qui on a tué ses petits. Je vous en ai voulu de ne pas avoir su vous cacher, vous retourner contre, redevenir arbre de nature, vous changer en arbre pour échapper à tous les coups, au lieu de cet étalement de vos plaies en plein cœur sur le trottoir, et rien qui soit remède, aucun mot comme si les choses aussi pouvaient mourir. Toute votre joie vivante, vitale, visible, devenue cette marée de mort à perte de vue. J'ai pris des photos. Avec mon téléphone portable, ma fille aînée a pris. M'a materné tout le long, dans la découverte du carnage. Vous vous laissiez trop faire, victime à mon image. Vous aussi qui étiez corps de mon corps, concentré d'être vivant. Que fait-on des corps qu'on a aimés, bien obligés de les jeter, quand ils ne sont plus regardables? On demande qu'ils soient emportés hors des yeux, détruits d'après leur mort, de crainte que... Je n'aurais pas pu garder chez moi votre charnier, me charger d'un tel poids de cadavre que vous étiez. J'aimerais qu'on vous ait brûlé, sans chaleur et qu'un cycle recommence, j'aurais aimé. Vous ayant porté, tas, paquets, toiles par brassées, vous ayant tracté sur le trottoir, sous la pluie de nuit, aux encombrants. Mal rangé, vous attendiez vaguement qu'encore une mort vienne vous prendre, avant une autre, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'une dernière image sur écran. Vos lambeaux de peau, sous la pluie, pleurant, dans la lueur des phares, vos ossements luisaient, vos blessures béantes, les plaies, le désarticulé. Les cadres démontés exhibaient des fémurs brisés, mon cœur faisait n'importe quoi, comme au chaos. J'avais honte pour vous du regard des automobilistes bloqués, au feu rouge à l'embranchement, des rues ne pouvaient que regarder. Certains sans doute détournaient les yeux à cause de mon visage, où la pluie dessinait de longues traînées d'impuissance. Peut-être, se demandait-il, pouvait-il constater le massacre de l'œuvre, mesurer le scandale de l'œil bouche bée. Mais la plupart joyeusement passaient, à côté de la scène de crime sans rien remarquer, écoutaient leur musique, à fond riaient avec des enfants, à l'arrière, ne pouvaient pas se douter que c'était seulement possible, que mon amas trop pâle avait été une œuvre. Je devais penser, pour achever mes gestes déboueuses, à d'autres arts qui trouvent leur achèvement dans le fait d'être très peu de temps, comme les mandalas si beaux dans le sable merveilleux, ayant mangé tant de temps, demandé tant de patience et de tout, pour ensuite, d'un simple coup de pied, d'un revers de main, être effacé dans un sommet. Sauf que vous n'étiez pas voué, vous, à la désinscription. L'image ne s'en va pas. Qu'est-ce qu'il y avait à voir sinon, cet encombrement sur la voirie, les tronçons trop grands de feuilles blanches, noircies, verdies, bleuies, jaunies, rougies, irréparables. Sous la pluie sans pitié, la bouillie de boue des couleurs tachait l'avant du jardin, changé en champ de bataille. Le vrai vieux tilleul ne protégeait de rien. Les arbres s'inclinaient, dans la longue habitude d'être sans s'insurger. Il aurait fallu ne plus savoir lire. Non, ce n'était pas mon art, mettre la dernière main. Vous deviez accompagner, hanter, ouvrir, trouer. Vous n'étiez pas conçu pour vous évanouir. Je ne vous avais pas destiné à la destruction. J'avais mis avec vous un peu de vie de côté, faisait signe, un peu de vie en plus. Vos branches donnaient l'essence, là où les arbres ciment. Et j'étais à la fin timide devant vous, comme quelqu'un qui se réveille et qui découvre. Dans violence, il y a viol. Vous étiez livré, sans serrure ni verrou, vulnérable comme la couvée quand la mère a dû s'enfuir. Parce que les bêtes se sauvent, leur instinct sait résistant qu'un prédateur veut leur peau. Sauvage d'avoir peur de l'homme, j'ai pris une valise, sauté dans un train. Il rentre du récit là-dedans. Demandant asile à ma fille aînée, j'ai dormi à l'internat sur son petit matelas, dans l'ancien lieu où j'avais dormi il y a maintenant 20 ans. Enceinte d'elle, je marchais sur le même trottoir, j'allais dans les mêmes salles de cours, à la même cafette. Aujourd'hui, ma grande fille fabuleuse, je vois son visage adorable épuisé dans la glace d'avoir tout vécu trop jeune avec moi. Comme un pin de haute montagne, elle a tenu à mes côtés, fine, forte, avec ses yeux, d'un bleu sans mesure, j'étais deux. L'atteinte, la guerre totale pour détruire une femme, la peinture, ce qui survit contre toute apparence. Sur une population de plus de 150 toiles, retrouvées des mois plus tard, blotties sous un banc, quatre petits formats échappés au massacre. On me dit tes arbres, ton protégé, ont été ton gilet pare-balles, comme dans les mémoires d'outre-tombe, le manuscrit d'Atala et des Natchez, dans quoi vint s'inscrire le coup de feu. Ils ont interposé leurs quelques 150 corps, sacrifié leur armée, parfaitement inoffensive et puissante, offrant leur cuirasse d'écorce pour être lacérée à ta place. Plus tard, j'ai demandé quelle arme, un crayon à papier, impossible. Malheureusement, le mal qu'on fait à un écrivain ne se venge pas, il s'en souvient. La vie qu'il a est sa biographie. Attenté à l'œuvre, l'atteint dans son autre, moi, au fond de sa profondeur, depuis, se répercute avec un bruit étouffé. Pousse ce hurlement d'arbre n'a plus rien d'humain. S'enfuit vers le haut cime, confondu avec les racines. Saigne sa sève faite boue pure, souffrance, infecte, vraie. Pas blanc. Dehors pleure ma fenêtre, plein l'arbre. Un oiseau pousse son chant au perché ne me touche pas. Non, je ne laisserai pas la mort me mourir avant d'avoir crié. Mais ce serait suicider la terre, abattre les arbres, la greffe des arts, la poignarder des remplins. Quoi de plus exposé qu'une toile, sinon la peau tendre d'une femme. Alors, je cherche un film, un poème qui parle d'un film que vous reconnaîtrez. Il n'y avait pas de raison. Dans un film, une femme pianiste, son mari lui coupait les doigts à la hache sur une souche d'arbre. Toute histoire est une île. L'alcool, la folie est une île, où les lois font n'importe quoi. Cette femme, à la fin, embarquait avec un autre homme des doigts de fer, se jetait dans la mer avec son piano, comme une pierre, cette image s'enfonçant. La vie est irrattrapable. Il ne se passait rien que des nuits réveillées en sursaut par l'ivresse massacrante de l'homme mâle, l'inertie, la détresse, l'évidence du délire quotidien. Est-ce que pendant la douceur, le temps se serait endormi? Les feuilles même des arbres citadins fuyaient loin, comme on cueille un caillou crève la peau du lac. Ce poids en moi d'arbre mort doit pourrir, la douleur porte ses plaies qu'aucun art n'apaise de la voix. Alors, certains ont un don pour labourer le bonheur avec les ongles. Il leur pousse des griffes, à coups de poing, des désirs de crever l'emporte. Ce geste ou celui inhumain de l'homme rendu fou par ses poisons. Je représente le meurtre de ma forêt, a lieu le temps de la terre. Sans s'en apercevoir, qui, l'homme, œuvre à la mort, se donne à la mort en la donnant. Peut-être un dernier. Rien de plus exposé que des arbres. Voir la forêt suspendue des pins, rêve trop court d'une main qui ne coupe pas, n'exploite, n'attaque, ni ne s'empare. Ironie la main, prédatrice si vite revenue. L'homme s'est abattu pour attiboiser suivant sa manie. Je n'ai plus eu au jardin que vos tronçons sous vos branches mortes. Voilà, donc je laisse quelques minutes peut-être au dialogue, à la parole, même si.
Merci beaucoup pour cette lecture et pour ce témoignage qui est très, très fort.
Lénaïque, ton micro ne fonctionne pas très bien, je crois.
Et merci beaucoup pour cette lecture et pour ce témoignage. On a juste probablement le temps d'une question, donc si quelqu'un veut poser une question, allez-y, la parole est à vous.
Est-ce que vous m'entendez? Ok. Merci beaucoup pour cette lecture. C'est touchant à entendre et enfin, je trouve que vos mots résonnent, enfin, ont à la fois leur spécificité très propre et en même temps, je trouve qu'ils résonnent beaucoup avec des choses que d'autres poètes ont pu dire pendant le colloque. Et à ce titre-là, du coup, vous parlez beaucoup des échanges entre, enfin, de la manière dont votre poésie a été nourrie et un peu et en dialogue avec votre travail pictural. Et je me demandais, par rapport à ça, vous avez beaucoup parlé de la manière dont la nature avait nourri votre art. Enfin, l'expérience de la nature venait le nourrir. Est-ce que vous avez des peintres qui viennent dialoguer aussi avec ce travail à la fois de peinture et de poésie?
Alors, au niveau des... Enfin, j'aime beaucoup les peintres d'arbres, évidemment, comme... je pense à Hollande, par exemple, ou... j'en avais parlé aussi avec Bernard Noël qui avait une pratique de dessin, enfin, qui avait un rapport aussi à ce geste d'écrire peindre que après je Voilà, il y a Michaud, il y en a d'autres aussi. Alors, je n'ai pas une très très bonne mémoire des noms propres. En fait, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi Twombly pour d'autres raisons, pour tous ceux qui en taille, enfin voilà, des bourgeois pour d'autres raisons, enfin voilà, il y a beaucoup de noms d'artistes qui vont surgir comme ça, des messagers, enfin voilà. Je ne saurais pas faire une liste exhaustive, mais il faut dire que j'ai eu une sorte de boulimie de musée contemporain. Enfin, ça a réveillé aussi des choses, et même enfin, du côté des couleurs de Klein, par exemple, qui a un bleu qui se rapproche un tout petit peu de celui-là, enfin, même assez, beaucoup. Voilà.
À ce titre-là, j'étais un peu... et c'est, pourquoi le bleu pour la couverture et pas plutôt un vert?
Alors... Grand monde des verts lichens. Et ce qui est assez amusant, c'est que comment des peintres auraient pu être rose, et je voulais surtout pas. Parce que pour moi, rose, c'est un peu rose fifi. Enfin, je trouve que le livre était plus fort. Pardon. Mathias Pérez peint beaucoup en rose vif, et on a eu une grande discussion là-dessus, parce qu'il me dit voilà, le rose, pas du tout, c'est pas du tout une couleur fille, mais ça peut être justement saignant, c'est la chair, c'est intéressant, c'est une couleur lumineuse, enfin on en a beaucoup parlé, mais je voulais plutôt voilà un bleu indigo, parce que c'est, enfin, je dirais, c'est comme certains mots ou certains livres, ils me font un effet physique à ce moment-là, et du coup, s'il y a une réactivité, une appétence, une ouverture, voilà, s'il y a un effet, si je suis visuellement touchée, ça marche. Enfin, j'ai l'impression que c'est la bonne raison, en fait, où une couleur vous fait quelque chose et il se passe quelque chose, et voilà, c'est cette raison-là.
Très bien, bah merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps, donc je pense que je vais passer la parole. En tout cas, c'est vraiment très intéressant de voir comment tout se... Enfin, je trouve que c'est très cohérent et ça fait un... Mais on va passer la parole à Lionel. Je crois que c'est Lionel qui va faire le prochain panel, donc je lui laisse la parole.